petit retard, mais pour le bon motif, on a fait un petit post-mortem de ce qui est arrivé hier du côté du CN, de la voie ferrée du CN, puis ce déversement également. Mais bon, hein, on voulait l'accueillir convenablement aussi. Hélène Doyle, bonjour.
Bonjour, bonjour. Moi, merci beaucoup de m'accueillir. Puis en plus, on est voisins.
Ben là, raison.
Alors, je suis enchantée de venir faire ma petite promenade.
C'est la capsule du Conseil des arts de Longueuil, bien sûr. Hélène Doyle, qui ne la connaît pas, comme moi j'entends Hélène Doyle, ben, c'est une documentariste, c'est une scénariste, c'est une réalisatrice. Y a-t-il une IS que j'ai oublié?
Productrice.
Une productrice également. Et c'est notre voisine, en plus. Donc, qui habite Longueuil depuis très, très longtemps et qui, ma foi, fait une carrière incroyable depuis plus de 50 ans maintenant. Et puis, ben, y a un film, d'ailleurs, à Rome, demain, projection à Rome. Oui, c'est la première.
Non, c'est pas la première, mais c'est la première à Rome, okay. Au Roma Independent Film Festival. C'est demain. Demain, vers 4h30, 5h.
Un documentaire qui s'appelle « Au lendemain de l'Odyssée ». Alors, au lendemain de l'Odyssée, on parle dans ce film-là d'immigration. Tiens donc, ce sont des thèmes on aurait pu déplacer ça ici aussi. Ce sont des thèmes importants d'immigration, d'accueillance également, mais ça se déroule en Italie. C'est un phénomène en Italie où de jeunes Nigériennes, de jeunes migrantes, sont prisonnières, hein, deviennent esclaves sexuelles de ce côté-là. Et tout ce qui est mis en branle, et c'est de ça surtout que vous parlez pour faire sortir ces filles-là de là, puis de leur faire éviter cette affaire-là.
Oui, en fait, c'était un hasard parce que précédemment, j'ai fait un film qui s'appelle « Dans un océan d'images, j'ai vu le tumulte du monde ».
Oui, on s'était parlé à cette occasion.
Oui, j'étais venue parler de ce film. Et un des personnages principaux, une des personnages, est une photographe italienne, sicilienne, qui malheureusement qui a disparu il y a quelques années, mais qui a combattu la mafia avec la photographie. On est devenus amis. Alors, okay. Quand le film est sorti, après avoir fait toute la tournée ici, je suis allée montrer le film en Italie, mais je suis allée la saluer parce qu'on était devenus vraiment copines. Puis, c'est quelqu'un qui a du caractère. Et pendant que j'étais là, j'ai découvert que c'était en 2017 qu'il y avait des jeunes gens, mais mineurs non accompagnés, qui arrivaient. Mais vraiment, quand on dit au mois d'avril, là, 1000 enfants qui arrivaient.
Depuis le Nigeria, depuis l'Afrique.
Depuis l'Afrique, mais aussi depuis l'Égypte, depuis l'Afghanistan, depuis tous les lieux. Mais une grande partie de l'Afrique, parce que l'Afrique et la Sicile, c'est collé. Hein?
Ben
c'est
oui, tout
très,
à fait.
C'est
la Sicile va dans la mer. Et
c'est
puis,
tôt, c'est tout au bout de la botte. Donc, j'ai commencé à poser des questions et comme j'ai fondé Vidéofemmes et que les premiers documentaires qu'on a fait c'était sur des sujets tabous à l'époque, le viol, la santé mentale, les femmes en prison, la ménopause,
qui ne sont absolument plus tabous maintenant.
Non, mais malheureusement, on a l'impression qu'il y a des fois des choses qui n'ont pas changé autant qu'on aurait voulu. Mais j'ai levé mon petit doigt et j'ai fait, mais ils sont où les filles? Parce que...
Qu'est-ce qu'elles deviennent?
Ce que je voyais autour de moi...
Elles sont seules, elles arrivent seules, des enfants.
Mineurs, non accompagnés. Ouais. Je voyais beaucoup de jeunes hommes, des fois des familles, mais des jeunes femmes. Alors, j'ai commencé à poser la question... Et tout le monde me regardait d'une façon un peu gênée. Les gens regardaient au plafond, regardaient par terre. Puis là, j'ai fait comme...
Parce qu'on savait ou qu'on ne voulait pas savoir?
On savait, mais on était gênés de parler du fait que ces jeunes mineurs non accompagnés subissaient la traite.
Et dans la majorité des cas, pas de passeport sur eux. Elles deviennent esclaves. Donc, il y a des gens, il y a tout un réseau organisé.
Un réseau très, très sophistiqué, immensément sophistiqué.
Donc, ces personnes-là n'existent pas en arrivant là-bas.
Non. Alors, comment les sortir? Comment les détecter? Comment les sortir de ça? Donc, là aussi, beaucoup d'associations, je veux dire, qui s'occupait de femmes italiennes déjà qui subissaient la violence, les problèmes de santé mentale, des femmes dans la rue, donc la pauvreté. Donc déjà, il y avait des organismes, un peu comme on a au Québec, puis des organismes aussi qui essayaient d'accueillir les jeunes mineurs non accompagnés, parce qu'il y a une loi spéciale comme ici, avec les mineurs qui doivent être protégés. Et là, ben, c'est là qu'on m'a appris qu'il y avait un système très sophistiqué.
Dans le reportage, ce que j'ai lu autour du reportage, parce que, non pas du reportage, mais du documentaire, ce que j'ai lu autour, c'est que c'est aussi important que la mafia, là, que l'emprise là-dessus, c'est la mafia. C'est aussi important, ça rapporte autant d'argent que le pétrole, monsieur.
Alors, c'est immense. Quand on dit ça rapporte plus que le pétrole. En fait, j'ai travaillé aussi avec une photographe italienne, mais qui vit maintenant à Paris, mais qui est venue faire beaucoup d'expositions ici au Québec. Par contre, aux rencontres de la Gaspésie, par exemple, puis aux Maisons Frontenac, elle est venue et qui a quand même un projet présentement au Québec. Donc, Elena Perlino avait documenté avant moi ce phénomène-là, mais des femmes plus âgées. Donc, elle a parcouru de 2008-2009 à 2011-2012, le territoire italien du nord au sud, en s'intéressant à ces femmes-là, qui étaient déjà là. Mais le phénomène auquel moi je me suis intéressée par après, c'était les mineurs non accompagnés.
Ces jeunes Nigériennes-là, et d'autres nationalités aussi, on le devine, restent en Italie ou on les envoie partout en Europe?
Alors, elles disparaissent. Elles disparaissent des radars quand elles ne sont pas aidées, quand elles ne sont pas... quand il n'y a pas une attention spéciale. Elles disparaissent totalement. Et où elles sont? Ben, comme la plupart des migrants en Europe, hein, je veux dire, à un moment donné, on ne sait plus où ils sont.
Ouais.
Ils sont là. Ils sont là. Donc, là, moi, j'ai rencontré des organismes et des gens de la société civile qui avaient décidé de mettre en place des moyens d'aider ces jeunes femmes-là et de contrer à la traite.
De quelle façon on s'y prend?
Ben, y a toutes sortes de projets. Par exemple, quand je suis arrivée à Palerme, il y avait déjà l'Institut des langues, la directrice des langues. Elle n'est pas dans mon film, mais elle m'a beaucoup inspirée. Elle me disait, ben, c'est pas tout de leur montrer une langue. Il faut aussi leur faire découvrir notre pays à nous et s'intéresser à eux aussi. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce que c'est leur conte? Qu'est-ce que c'est leur histoire? Qu'est-ce que c'est? Mais quand c'est des tout-petits, c'est un petit peu plus compliqué. Mais leur faire découvrir le pays, l'amour qu'on a pour notre ville, les activités qu'il y a, et de leur offrir aussi des activités, à part l'éducation. Alors là, on pense à tout ce qui est art. Hein, le théâtre, la musique.
C'est souvent la porte d'entrée.
Oui. Les sports aussi. Mmh. Et les femmes que moi j'ai rencontrées plus tard, un peu plus tard, eux travaillaient beaucoup avec les tissus.
OK.
Et tout ce qui est aussi, par exemple, on parlait tout à l'heure d'une jeune femme qui est à Modène près de Bologne.
Oui, tout à fait.
Qui est québécoise, qui fait un travail avec la cuisine.
Oui. Donc, je ne me souviens plus du nom de la fondation, mais c'est une école où on accueille les jeunes migrants.
Et on leur montre à
les
faire.
Les jeunes migrantes, principalement.
Oui, on leur montre principalement à faire la cuisine, mais aussi à se gérer.
Oui.
Alors, c'est un petit peu.
Et ça fonctionne.
Oui. Ça prend beaucoup de patience. Et moi, ici, quand on a travaillé après sur comment présenter le film ici au Québec, en fait, on a les mêmes soucis. La traite existe, hein, soit dit en passant. C'est peut-être pas la traite nigériane, mais la traite existe. Puis si on lève le tapis, on va trouver des choses pas très jolies. La traite existe aussi pour nos jeunes femmes. On sait ça aussi. Mais moi, surtout, ce qui m'intéressait, c'est, comme on disait tout à l'heure, l'accueillance. Alors, moi, en fait,
c'est universel, l'accueillance.
Oui. On est allé plus loin que l'accueil. Parce qu'il est arrivé une chose assez rigolote. J'ai été assistée par une jeune femme en Sicile qui parlait un excellent français. Puis elle m'a dit, à un moment donné, pendant qu'on discutait du film, et je lui disais, ben, c'est parce que c'est aussi sur l'accueil. Puis là, elle me traduit, tu travailles sur l'accueillance. Et toute l'équipe, on a trouvé que c'était beau parce que c'était comme plus englobant.
C'est comme une science. Oui, l'accueil, c'est que c'est un mot, mais l'accueillance, c'est comme une science autour de ça.
Oui, puis c'était plus large aussi. Puis là, je me suis dit, elle a fait une faute de traduction. Ça y arrivait pas souvent, mais bon. Et puis, en revenant...
Ça existe-tu ou c'est un néologisme?
C'est un vrai mot, OK. C'est dans le dictionnaire français qui veut dire « aimer accueillir ».
En plus.
Oui. Donc, le film est sur l'accueillance. C'est-à-dire, c'est pas juste l'accueil, c'est prendre le temps d'accueillir. d'aimer accueillir. Fait qu'on en fait des choses quand le Noël s'en vient, là, on en fait des petits pâtés, puis des beignes, puis de tout ce que vous voulez.
Oui, puis on aime ça faire ça.
Oui, puis décorer, puis un an. Oui. Fait que c'est ça, là, c'est ça, aimer accueillir. On va voir sa gang qui va venir. Et l'autre thème qui était très important, mais qui est sous-jacent au film, c'est la rencontre avec l'autre. Oui. Donc, ces jeunes femmes-là qui arrivent d'une région du sud, vraiment du Nigeria, c'est une région très, très spécifique, qui s'appelle l'Edo, qui arrivent en Italie, et puis elles sont partout, hein. Elles sont partout après en Europe. Moi, j'ai parlé de l'Italie, mais
ben, candidement, Hélène, elle fuit quoi? Est-ce qu'elle fuit des guerres? Elle fuit la prostitution là-bas aussi? Elle fuit...
Écoutez, on parle de mineurs, hein? On parle d'enfants, là. Fait, alors, oui. Ça pose des questions. Pourquoi
si
des familles...
enfants mineurs, on s'en va.
Laisse partir une fille toute seule. Hein? Alors, il y a un système très, très complexe où il y a des madames en Nigeria qui vont dans les familles et qui proposent aux filles, aux familles, de laisser partir leurs filles.
Ce seraient des rabatteuses qui travailleraient pour la mafia?
Oui. Mais quand j'ai dit que c'était sophistiqué.
Ben oui.
Et qui les attendent à l'autre bout pour les occuper, si on peut dire ça ainsi. Et elles vont dans les familles et elles disent, ben, tu sais, j'ai une cousine qui a un salon de coiffure, ta fille, si elle allait là, elle aurait un poste. Ma cousine ou ma tante est en Italie, elle a besoin de babysitter. Ta fille a vraiment été intelligente, on pourrait l'aider à l'école. Elles sont très rusées. Et les familles, des fois, qui sont... C'est vrai aussi pour les garçons ailleurs, hein, mais les familles qui sont nombreuses, qui ne sont pas tout à fait riches, qui ne connaissent pas tout à fait le système, sont embarquées là-dedans, puis disent, ben si ma fille peut y aller, en même temps, elle pourra renvoyer des sous, elle a un avenir, elle va pouvoir nous aider.
C'est l'espoir qui fait en sorte qu'on les laisse partir.
Et c'est un mensonge.
Que les futurs vivent de plus belles choses que ce que nous
vivons. C'est un mensonge énorme. Et d'autre part, ces femmes-là qui reviennent au pays sont très riches de cette prostitution-là. Elles sont très riches, donc elles arrivent en BMW vite teintée. Elles ont
donc une image de réussite.
Oui, elles sont habillées à la mode, elles se promènent avec
des. Elles ne peuvent pas mentir. Parce qu'elles sont belles et...
C'est ça, et les gens se disent, ben elle a réussi, donc ma fille va réussir, et cette femme-là me dit qu'elle va s'occuper de ma fille, ben... Et là, le grand chemin qu'on a pu voir hein, dans le film de Garone, Sono Capitano, Je suis capitaine, qui est passé cet été, là, qui était...
Dont j'ai entendu parler aussi.
On parlait aussi d'une pièce de théâtre.
Caravanserai, je pense que ça existe aussi, oui. Théâtre du Soleil, Ariane Mishkin, où il y a des scènes absolument délirantes.
Alors, il y a des
mensonges.
Oui.
Ouais.
Alors, il y a toute cette route que ces jeunes femmes-là, des gens partent toutes seules.
Toutes ces routes, il y en a plusieurs.
C'est ça. Ouais. Et puis, elles aboutissent en Libye. Et là, on peut penser au livre de Joanne Liu, qui vient de sortir, là, où elle parle de ce qui se passe en Libye. Puis elle dit que c'est une des choses les plus terribles qu'elle a vues dans sa vie. Puis pourtant, elle en a vu.
C'est Médecins sans frontières, là.
C'est bien ça. Et puis après, elle vient de sortir un livre, là, il n'y a pas longtemps. Et ensuite, c'est la traversée de la Méditerranée. Donc, moi, j'ai raconté l'histoire d'un sauvetage en Méditerranée. Et la personne qui a fait ce sauvetage avec une équipe, en fait, en voilier. Elles ont vu, ils étaient en voilier sur la Méditerranée et ils ont vu des gens qui étaient en train de se sauver en Méditerranée, mais en train de, pas juste se sauver, mais en train de périr en Méditerranée. Ouais. Alors, ils ont aidé ces gens-là sur ce bateau.
C'est un drame affreux. Là.
Ça n'arrête pas.
Ça en a tous les jours, toutes les heures. À l'heure où on se parle, il y en a. Là.
Donc les jeunes femmes que j'ai questionnées ont vécu ça.
Et ben voilà.
Mais bon, un des personnages échappe à ce drame, Stéphanie, grâce à une famille d'accueil qui font un travail merveilleux. Et puis après, j'ai une autre jeune femme qui n'a pas échappé à ça, mais qui, un jour, a pris son courage à deux mains puis qui est allée à la police. Elle aurait pu tomber dans un guépier, hein, parce que...
Aussi,
c'est sophistiqué. Et Dieu merci, il y avait un travail qui était fait par une communauté religieuse, qui sont les Ursulines.
Et qui ont, ici à Québec.
Oui, et c'est ça, quand on a parlé avec Sœur Rita, elle disait, vous avez des ursulines au Québec. Et c'est cette communauté religieuse est immensément, en tout cas la sœur que j'ai rencontrée, la Sœur Rita, immensément ouverte, très pas partout barré à 40, là, comme on dit au Québec, là, parce que tu dis, ah bon, ils vont aller leur porter de l'eau bénite puis des chapelets. Non, 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 non. Elle fait un travail sur le terrain, en périphérie, un travail très, très dur.
Âgée? Elle est âgée?
Bien, maintenant, elle est à sa retraite, mais elle a fondé une association qui s'appelle New Hope, où elle accueille les filles, mais elle leur donne un métier.
OK.
Alors, cette...
Donc, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'avenues d'espoir dans ce que tu nous proposes.
Ben, c'est
comme
super important.
Au lendemain de l'Odyssée, bien sûr.
C'est super
Combien
important.
De temps ça a pris pour réaliser
Sept ans.
Ça? 7 ans.
Parce que j'ai eu la pandémie d'impact.
Ah, il y a eu ça, oui.
Oui. Et puis, la dernière jeune femme qui témoigne, c'est une femme de 23 ans qui écrit un livre sur son histoire à elle, qui avait déjà fait des romans jeunesse.
Okay.
Et elle a écrit une histoire, mais absolument époustouflante. C'est que sa mère, qui était prise dans la traite avec une madame, est tombée enceinte. Et elle a décidé de garder l'enfant. Mais plus ça allait, plus elle sentait que cet enfant-là n'avait pas d'avenir. Elle est allée chez la voisine italienne, qui n'était pas très loin, qu'elle croisait souvent. Puis elle est allée porter sa petite-fille à la naissance. Puis elle a dit, tu vas garder ma fille, parce que moi, je veux pas qu'elle vive ce que je vis. Et cette famille italienne-là a accueilli cette jeune femme-là, cet enfant-là, et a grandi avec. Et la mère, la mère qui s'appelle Gladys, a complètement disparu. Elle devait disparaître pour échapper à la traite. Et 5 ans plus tard, elle est revenue cogner à la porte. Et les deux mères sont devenues amies. Donc, elle est élevée par ses deux mamans.
Quelle histoire, quand même.
Alors,
tu en parles dans le documentaire.
Oui, elle-même témoigne, elle a écrit ce livre. Bon. Donc,
au lendemain de l'Odyssée, c'est comme ça que ça s'appelle. On peut le voir en ligne aussi, j'imagine.
Pas encore,
sinon,
pas encore.
Sinon, un petit billet pour Rome, vous avez le temps pour demain.
Non, je pense pas.
Non, c'est ceux qui nous écoutent peut-être.
Oui, oui, à Rome, là-bas. Oui, peut-être. Oui.
Donc, vous n'aurez pas droit au banquet qui précède, ou les petits canapés italiens.
Oui.
Mais bravo pour votre travail.
Merci.
Hélène Doyle, donc, on le rappelle, scénariste, réalisatrice indépendante, productrice, et puis qui fait partie aussi des 3 finalistes du prix Reconnaissance des Jardins. Hein, c'est la chronique de la capsule du CAL, du Conseil des arts de Longueuil, il faut en parler. Hélène, donc, vous êtes finaliste aux côtés de Marc Lalonde, le musicien, hein, le chanteur. En fait, il était venu me parler d'un disque country il y a quelques années. Et Jacques Laroche, comédien, auteur et metteur en scène. Donc, on va le savoir le 27 novembre, 10 000 $ en bourse. Vous avez été boursière du CAL à plusieurs reprises.
Oui, oui.
Parlez-nous un petit peu de ce que ça représente pour vous.
Ben, écoutez,
qui êtes connu à l'international, en fait.
Oui, mais ça a souvent été... Bon, les bourses sont pas immenses, là, mais c'est souvent la petite graine qu'on peut semer.
L'étincelle.
L'étincelle, voilà, oui. Merci. Oui, c'est vraiment l'étincelle. Parce que des fois,
bougie d'allumage.
Oui, merci, c'est ça que je cherchais. Et toi encore un peu, j'ai pas pris assez de café, je pense. Alors, c'est ça, c'est la bougie d'allumage, parce que ça permet des fois qu'on a une intuition. Comme là, quand j'avais fait cette rencontre en Sicile, puis que j'ai vu ça, puis que j'ai commencé à parler avec les jeunes femmes, je me disais, il faut que j'y retourne. Il faut que je puisse revenir.
Ça se déroule comment, pour toi? Comment tu fonctionnes? Tu rencontres quelqu'un, puis c'est là que tu le sais, sur le coup, tu dis, OK, ça va faire quelque chose d'intéressant. Ou c'est en retournant chez toi, puis tu un moment donné, t'es assis chez vous, tu dis, coudonc, j'ai rencontré quelqu'un, puis c'est ça qui va se passer.
C'est un et l'autre, parce que ça, quand même, quand on décide de faire quelque chose en Italie, là, ça veut dire qu'on a des sous, un minimum.
Oui.
Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est avec les rencontres que j'ai fait, je me suis dit, oh, il y a quelque chose là, il faut que je puisse creuser, il faut que je puisse revenir pour, là, vraiment faire, parce que c'est pas un reportage, là, quand on dit qu'on a passé 7 ans sur un truc, là.
Tout à fait. Nos
documentaires, ils nous prennent en moyenne 3-4 ans à faire, avec monter les financements aussi, c'est pas instantané. Donc, comment trouver l'angle du travail, retourner, faire de la recherche.
Dire les choses correctement
c'est
aussi.
C'est ça, puis prendre le temps.
Puis fond des choses aussi.
C'est ça, puis comment
l'angle,
on va, oui.
Tout en avait un, donc tu étais sur la cadence. Il y a tout ça à réfléchir aussi.
Dans ce cas-là, le calme m'a permis...
Un petit peu de sous que ça donne, ben ça te
m'a permis d'aller concrétiser. J'ai fait aussi un travail que j'ai trouvé très chouette. C'est un peu au début, après, dans un océan d'images, j'ai pu faire une des premières médiations culturelles ici, à Longueuil, avec des gens qui étaient entre 50 et j'ai 75 ans à peu près, et je leur ai proposé tout un univers, un programme où on a fait de la musique, du chant, de la danse.
On en avait parlé aussi avec Sylvie Gignac à l'époque, il y a une dizaine d'années, 5 ans, 6 ans.
Au pays du grand ciel, danse des oies sauvages.
Oui.
Et c'était aussi sur l'entraide. Alors, moi, il y a toujours comme des patterns qui reviennent.
Ben oui.
Alors, c'était sur l'entraide.
On creuse toujours le même sillon. Hein,
c'est ça.
On s'en rend pas compte.
Alors, c'était la même chose. Hein, les oies qui volent en V. Donc, il y a ceux qui sont en avant, mais à un moment donné, il y a ceux qui sont derrière qui viennent se placer en avant. Il y a une espèce de chorégraphie.
Oui.
Donc, on avait travaillé aussi avec des chorégraphes. J'avais travaillé aussi avec un musicien compositeur avec qui j'ai suivi en Bosnie, qui faisait un travail avec la musique et l'intervention musicale. Donc, il était venu travailler avec nous. Je travaillais avec Edgar Borry, avec Marie-Claire Séguin. Donc, on a fait la musique, on a fait...
Puis tu m'amènes vers la chanson aussi, Proserpina, qui est Martha Wright, évidemment. C'est sa mère,
Kate Marigold. Oui.
Une très, très belle chanson. C'est la chanson du film. Dedans.
C'est la chanson du générique.
Des plus belles chansons, je pense, écrites jamais.
Oh, c'est magnifique. Et pendant qu'on travaillait...
Sur une mère et ses enfants.
Et j'ai fait un autre film précédemment qui était très personnel sur mon passage en Bosnie 2 fois. Et là, c'est Soupir d'armes. Et là aussi, le Cal a joué un rôle de bougie.
Alors, on pense à toi le 27 novembre. On te souhaite le meilleur. Sinon, ben, tu vas...
Écoute, c'est toujours un... C'est, je veux dire, les
autres... D'être reconnu dans son pays, c'est bien
ça.
Aussi.
Et puis, il y a aussi... C'est déjà d'être là.
Oui.
C'est extraordinaire. Et puis des fois, ben, ça nous permet d'articuler un autre projet qui s'en viendrait, qu'on n'est pas sûr, puis qu'on se dit, bon, j'aimerais ça aller packager là-dedans. Là,
bon, t'es là-dedans présentement, tu sais pas où tu vas aller packager ou tu le sais un peu?
J'ai des idées, mais c'est ça. Fait que ça...
Tu viendras m'en reparler.
OK.
Merci, Hélène Doyle.
C'est moi qui vous remercie.
Hélène Doyle, donc finaliste, on le rappelle, du prix de reconnaissance Desjardins, édition 2024. C'est le 27 novembre prochain qu'on saura si elle gagne le prix. Sinon, scénariste, productrice, réalisatrice d'exception et qui habite à un jet de pierre de la station en plus.
À bientôt.
À bientôt.